Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toutes les semaines l'actualité tech, internet et gadgets. Toutes les semaines, oui, sauf qu'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on a un épisode spécial qui, je l'espère, va être captivant, passionnant, va vous apprendre des choses, va vous amuser, vous distraire. Toute l'émission du Rendez-vous Tech, sauf l'actu, puisqu'aujourd'hui, on va vous parler de data, de marketing, de ciblage, de pub et toutes ces belles choses et essayer de vous expliquer un petit peu comment ça se passe aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est des domaines dont on sait qu'ils sont importants, qu'ils sont un peu complexes et qu'il y a beaucoup de fantasmes qui tournent autour de ces sujets, mais on ne sait pas toujours comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, j'ai réuni deux experts internationaux qui vont pouvoir nous détailler un petit peu tout ça. Je suis Patrick Béja, votre animateur et présentateur du Rendez-vous Tech, et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Romain et Franck, Romain Robin et Franck Crémon. Comment allez-vous, messieurs? Est-ce que vous êtes en forme, prêts à démystifier la pub et le marketing?
Bonjour Patrick. En forme, merci. Prêt pour essayer de vulgariser un peu le sujet autant que possible.
Très bien, merci Romain. Et Franck, toi, ça y est, t'es d'attaque, c'est bon. Je sais que t'es un petit peu malade, tu me disais avant qu'on commence l'émission.
Un petit peu, mais ça m'empêchera pas d'être présent. Merci pour l'invitation et cette opportunité. Et avec grand plaisir pour pouvoir échanger sur ces sujets avec vous deux.
Très bien. Eh bien, écoutez, on va pas faire patienter les auditeurs plus longtemps. Je vous propose de vous présenter en quelques mots avant de se lancer, histoire que les gens sachent à qui et à quoi ils ont affaire. Romain, c'est vrai que certains se souviendront peut-être du nom évoqué ici et là dans les couloirs de l'époque No Watch des podcasts. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu peux nous dire quel est ton métier?
Alors en effet, c'était il y a un moment chez No Watch. Je suis aujourd'hui responsable digital pour un grand groupe de prêt-à-porter qui distribue des vêtements pour enfants, notamment sur Internet. Ce que je fais depuis à peu près 6 ans ou 8 ans, j'ai pu passer par différentes sociétés, que ce soit des acteurs de la publicité digitale, des acteurs technologiques de la pub, des régies, et aujourd'hui chez l'annonceur, ce que je suis, ce qu'on appelle un marketeur, ce qui fait que je suis On ne peut plus dans le sujet du ciblage, de la data, du marketing. Et pour la petite anecdote, j'ai travaillé durant 3 ans ou un peu plus de 3 ans avec notre ami Franck, avec qui nous sommes aujourd'hui.
Très bien, bah justement, c'est une transition parfaite. Franck, toi, qu'est-ce que tu fais? Lui est du côté annonceur, donc personne qui a une marque qui veut se faire connaître. Et toi, qu'est-ce que tu fais alors?
Alors moi, du coup, j'ai fait mes débuts en agence digitale, agence conseil et en développement justement des annonceurs sur le levier digital. Et depuis maintenant quelques années, je suis en régie média digitale. L'objectif pour les régies, c'est d'avoir un accompagnement réseau technologique et un réseau de partenaires qui va pouvoir répondre aux différentes problématiques que peuvent avoir des annonceurs comme Romain sur le digital.
Donc ça veut dire que toi, en fait, tu es la personne que viennent voir les gens qui veulent faire de la pub et tu te débrouilles pour placer leur message devant les bons yeux, quoi, en fait.
Exactement. Je dirais plutôt répondre aux objectifs qu'a l'annonceur par rapport à des audiences ou à des profils en particulier. Donc ça peut être des besoins en trafic, en vente si on est un e-commerçant, en lead si on vient demander de devis par exemple, tous ces genres d'objectifs que peuvent avoir les annonceurs sur le digital.
C'est vrai qu'on a tendance à penser au marketing comme de la pub, c'est-à-dire mettre une bannière ou un message publicitaire devant les yeux ou dans les oreilles d'une audience. Mais j'y pensais pas forcément. Il peut y avoir d'autres buts aussi. La vente est un but évident, mais du trafic, par exemple, ça peut être la raison pour laquelle quelqu'un vient vous voir. C'est pas juste afficher de la pub, quoi.
Tout à fait. Tout à fait. C'est un des points principaux qui fait qu'aujourd'hui le marketing digital a quasiment supplanté et a supplanté depuis 2017 les budgets télé. C'est-à-dire qu'il y a plus de les gens, les marketeurs dépensent plus de budget en digital qu'en télé. C'est qu'aujourd'hui l'objectif principal n'est pas l'exposition simple et pure et dure d'un message commercial, mais c'est vraiment d'engager l'utilisateur, de générer une interaction avec lui et d'être capable surtout de mesurer tout ça et de l'optimiser. Dans le futur. Le but principal, c'est vraiment générer de l'interaction, que ce soit par la vente, qui est un petit peu, on peut être, soyons honnêtes, le graal de tout annonceur, que ce soit quelqu'un qui vend des vêtements sur Internet ou quelqu'un qui vend une voiture. Je prends l'exemple de la voiture parce que Franck parlait des leads, de comment générer des leads, des prospects, des devis pour essayer des voitures notamment. Imaginons que demain, la publicité ait la capacité à faire vendre des voitures directement sur Internet, ce serait le graal pour tout concessionnaire. Mmh. Donc la vente reste un peu le graal, mais en effet, comme tu l'as dit Patrick, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des KPI, cet anglicisme un peu bâtard, mais qui est ce métrique, cet indicateur de succès d'une publicité, cet indicateur de succès qui peut être le trafic emmené sur le site, la simple impression publicitaire peut être un critère de succès aussi d'une campagne publicitaire, la génération de devis. L'important est d'être capable de mesurer ça, de le quantifier, de savoir où est la valeur ajoutée de cette publicité pour ensuite l'optimiser dans le futur.
Bon, bah on va se lancer dans tous ces sujets. Je vais le mentionner parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui l'auront noté. Vous êtes complètement dans le digital, hein. Le numérique, c'est un petit peu le langage de l'ancienne France qui est pas la Startup Nation, tu vois. Donc vous êtes dans le digital. Et les KPI, c'est les Key Performance Indicators. Donc c'est effectivement les indicateurs qui vont permettre de savoir si une action a fonctionné ou pas et quelles données on va regarder pour savoir si ça a fonctionné. C'est vrai qu'il y a ce genre de termes qui sont utilisés dans ces domaines et tout le monde ne connaît peut-être pas les KPI, c'est de ça qu'on parle. Mais alors, avant de parler d'aujourd'hui, je veux passer juste deux secondes pour dresser un rapide tableau de comment ça se passait avant. Et je pense que le monde de l'Internet d'avant, alors avant quoi, on ne sait pas trop, mais on va dire avant, il était très simple. C'est-à-dire qu'il y avait des bannières à afficher sur des sites, il y avait des régies publicitaires qui avaient un catalogue de sites sur lesquels ils pouvaient afficher des bannières. Et quand un annonceur, par exemple, Patrick Béja Gaming venait voir une agence publicitaire, il allait dire « bon, bah moi, j'aimerais bien que joueurs de jeux vidéo soient au courant de mes produits, connaissent mes produits », ils allaient me dire « ah bah voilà, on a tel site, le site Judge Heap ou le site superjeuxvideo.com ou machin, et on peut vous mettre des bannières là-dessus ». C'est un petit peu comme ça que je vois le marché de la publicité d'avant. Après, il y a eu Google qui est arrivé et qui a commencé un petit peu une sorte d'automatisation. Il y avait AdWords qui était le fait de mettre des pubs sur le moteur de recherche Google en fonction des mots qu'on tapait dans le moteur de recherche. Donc, si quelqu'un cherche gaming, eh ben moi, si je paye assez, je vais passer devant les autres en pub pour afficher mon site. Alors, évidemment, gaming, c'est un titre assez commun, donc ça va coûter cher de mettre de la pub là-dessus. Il y a des termes moins communs qui coûteraient moins cher. Et il y a aussi AdSense, qui est là de la pub effectivement sous forme de bannière sur des sites, mais qui est assez automatisé et qui prend en compte le contexte du site, donc qui sait ce qu'il y a sur le site et qui va donc pouvoir afficher de la pub qui va correspondre a priori au contenu du site, ou en tout cas on peut choisir ce genre de choses. Est-ce que c'est un bon résumé de la manière dont ça marchait encore une fois avant et on peut avancer, ou vous avez des choses à ajouter sur cet ancien monde?
Non, je pense que c'est la bonne vision, mais je pense que c'est d'un point de vue utilisateur, c'est une vision qui est toujours d'actualité. Je pense qu'on a tous fait l'expérience, Romain y compris, quand on essaie de décrire à des amis qui sont pas du tout du milieu ce qu'on fait, quel est notre métier, la réponse bien souvent c'est « Ah, c'est toi qui nous mets de la bannière, c'est toi qui nous mets des vidéos avant notre vidéo, c'est toi qui nous envoie les mails, etc. » Donc il y a toujours cette vision un petit peu simpliste et barbare de la publicité, alors que derrière derrière, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Les gens commencent un petit peu à se rendre compte quand ils naviguent sur un site, qu'ils vont visiter des produits et que le lendemain, ils renaviguent et ils se disent « Tiens, c'est bizarre, les produits que j'ai regardés hier, on me les propose dans les bannières. Il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière, je suis suivi, ça fait un peu peur. » Et il y a toute une facette qu'il y avait un peu moins avant, justement, à l'époque où tu décrivais, et qui arrive, qui est beaucoup plus automatisée, beaucoup plus généralisée aujourd'hui. Oui.
Eh ben parlons justement de la manière dont ça fonctionne aujourd'hui. Si vous deviez décrire en 5 minutes en général, on va partir dans les détails après, d'où viennent les données, comment elles sont utilisées, comment elles sont recoupées, qu'est-ce que c'est que la programmatique, etc. Mais vision générale de comment ça fonctionne aujourd'hui, comment la pub fonctionne sur Internet aujourd'hui, si vous deviez le décrire à quelqu'un qui n'y connaît rien. Je ne sais pas qui va prendre la parole, mais Romain, tu as l'air de te porter volontaire, donc vas-y.
Allez, je me lance dans l'exercice. Franck, tu complèteras ou tu corrigeras s'il le faut. Aujourd'hui, la pub sur Internet et le marketing sur Internet est basé autour du système de cookies. On appelle ces petits fichiers déposés sur les navigateurs sur votre navigateur, le mien, sur tous les navigateurs, qui contiennent un certain nombre d'informations comportementales de ta navigation, quel est par exemple ton adresse IP, quel est ton navigateur, et ensuite te donne une espèce d'ID, un tampon avec un identifiant unique qui est le tien. Facebook utilise son système de cookies, Google a le sien, n'importe quel site de presse ou de média a le sien. Et aujourd'hui, le monde de la publicité se base sur ces cookies.
Excuse-moi, je t'interromps déjà, ouais. Romain, mais quand tu dis un identifiant unique, c'est unique, oui, par site. C'est-à-dire que le monde a sa liste, le monde.fr ou le figaro.fr. Bien sûr, ça inclut des sites comme Facebook ou Amazon, etc. Mais il faut bien comprendre que tout le monde les a. Et donc, ils peuvent vous retrouver d'une session sur l'autre quand vous êtes sur le même ordinateur, même si vous n'êtes pas logué sur le site du Monde, parce que sur votre cookie, ils savent qui vous êtes. C'est en fait une sorte de... Est-ce que c'est faux de dire c'est presque une sorte de compte qui est créé pour vous, pour vous suivre, quoi?
Alors, je pense que la notion de compte ne peut pas être... Et fausse en soi, parce que le cookie a une durée de validité de 30 jours, qui est la durée de validité basique. C'est-à-dire qu'au bout de 30 jours, comme un cookie dans ton placard, il va périmer, il sera plus utilisable, tu vas le jeter. Là, les sites, les lemonde.fr, les Facebook jettent ces cookies et en recréent d'autres à chaque nouvelle visite que tu fais.
Mais par contre, si tu refais une visite dans les 30 jours, il est rafraîchi. C'est-à-dire que c'est 30 jours depuis ta dernière visite, ouais.
Exactement, et ça va venir alimenter ce cookie, dire que cet utilisateur, Patrick Béja, il vient deux fois, trois fois, quatre fois, tu vas prendre un peu d'importance parce que tu vas être quelqu'un qui revient souvent, qui est potentiellement réceptif au message qui est sur ces sites. Mais le but du jeu de ces cookies, c'est pas de toi savoir qui tu es, Patrick Béja, c'est de constituer des bassins d'audience, des gens qui ont le même comportement que toi, des comportements similaires, et de créer des bassins d'audience basés sur des similarités. C'est aujourd'hui sur ce principe-là que fonctionne Internet. On achète des bassins d'audience, on achète des... Franck, je pense que vous pourrez appeler ça des packages, des bassins d'audience thématiques. Je veux par exemple cibler des mamans, je veux cibler des fans de jeux vidéo, je veux cibler des gens vivant plutôt en province. Et ces cookies nous permettent d'atteindre ces objectifs et d'aller cibler cette audience de manière très basique.
D'accord. Vas-y, Franck.
Oui, juste en complément, le but, c'est également, tout le monde ne met pas en place des cookies, bien sûr. Il faut avoir des technologies qui sont adaptées pour pouvoir les mettre en place. Donc, bien sûr, si je vais demain sur le site de Patrick Béja, il y aura potentiellement pas de cookies, parce que peut-être que tu n'en mets pas en place pour pouvoir suivre l'activité. Il y a deux typologies d'analyse. Il y a les cookies, justement, d'analyse, qui est très utile, notamment pour des sites e-commerçants qui vont pouvoir dire, tiens, je me rends compte que les internautes viennent sur cette page, viennent sur la page produit, mais personne n'achète. Qu'est-ce qui se passe? L'analyse justement de la navigation de l'internaute va permettre au site e-commerçant de comprendre pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas. Ça permet aussi potentiellement de déceler des problèmes. Ça
permet besoin d'un cookie pour savoir s'il achète ou s'il achète pas, puisqu'on a les données de navigation du côté serveur également, non? Ou est-ce que ça donne plus d'informations, les cookies, pour suivre d'une session sur l'autre? C'est ce que
ça permet notamment de retrouver combien de personnes uniques sont venues, et non pas le nombre de personnes qui sont venues sur la page au total, parce que quand on rafraîchit, je sais, quand on fait les achats sur Internet, on aime bien regarder 3, 4, 5 fois le même produit pour être sûr, est-ce qu'on l'achète, est-ce qu'on l'achète pas.
Je confirme, oui.
Donc tout ça, c'est des outils qui vont nous permettre de d'avoir une vision plus réelle de ce qui se passe sur le site e-commerçant. Ouais. Et à côté de ça, il y a une autre utilité qui est plus publicitaire, où là, ça rejoint ce que disait Romain, qui vont permettre de créer des bassins d'audience, des similarités et des données qui vont être plus utiles à des fins commerciales. Donc il y a ces deux types de données qui sont utilisées. Mmh.
Alors, pour désamorcer, j'imagine, les questions que peuvent avoir les auditeurs aujourd'hui, les informations qui sont contenues dans un cookie sont des informations qui sont pseudonymisées, ce qu'on appelle, qui sont anonymisées, qui ne sont pas des données personnelles, c'est-à-dire que dans un cookie, il n'y aura jamais un nom, un prénom, une adresse postale, ce sont des données, on va dire, numériques, des données informatiques, ton adresse IP, ton heure de session.
Oui, l'adresse IP, le navigateur qu'on utilise, voilà. Etc., oui.
Exactement. Ou les peu d'informations qui sont personnelles, comme par exemple l'adresse email, sont encodées de manière à ce qu'uniquement le site qui a déposé le cookie puisse le lire. Ou alors, et c'est là où on en reviendra dans un temps d'eux, j'imagine, les partenaires commerciaux de ce site à qui tu as donné le droit de lire ton cookie.
C'est là que ça devient intéressant. Ben justement, donc là, d'une manière générale, c'est intéressant que vous disiez que c'est à ce point basé sur les cookies, parce que c'est vrai qu'on sait que les cookies sont importants, mais vous avez l'air de dire que c'est vraiment la colonne vertébrale du marketing sur Internet. Moi, immédiatement, la direction vers laquelle je serais allé pour essayer de réfléchir à ce qui est important dans le marketing sur Internet, c'est plutôt les profils constitués par les réseaux sociaux ou assimilés. Quand je dis réseaux sociaux, je pense évidemment à Facebook en premier ou à Twitter. Et quand je dis assimilés, je pense à des sites comme Google ou comme Amazon qui vont avoir énormément d'informations sur nous. Mais qui sont a priori dans des silos, c'est-à-dire que je comprends bien que Facebook, parce que je lui donne ces informations et parce qu'il sait les types d'éléments que je like ou auxquels je réponds, avec lesquels j'interagis ou les pages auxquelles je m'abonne, il va savoir quel type d'utilisateur je suis. Google, par mes recherches, par les données que j'ai dans mes emails, etc., il va aussi savoir quel type d'utilisateur je suis. Encore une fois, Amazon, par les types d'objets que j'achète ou même le type de médias que je consomme sur leur service avec Amazon Premium, ils vont, là encore, avoir des données sur moi. Tout ça, c'est des profils qui sont a priori dans des silos. Et pourtant, on me dit que c'est... je t'entends rigoler, Romain, quand je dis qu'ils sont dans des silos. Et pourtant, on me dit que c'est là la mine d'or de la publicité sur Internet. Du coup, et c'est peut-être un sujet qui est un petit peu complexe à expliquer, mais comment se fait le recoupement avec l'univers des cookies et comment est-ce que les annonceurs et les régies publicitaires vont utiliser ces informations pour cibler leur publicité? Et là, j'ouvre une question qui est énorme, donc je la pose par terre et je m'enfuis en courant et je vous laisse vous débrouiller. Je ne sais pas, peut-être, Franck, tu veux commencer sur ce sujet-là? Comment est-ce que c'est recoupé? Comment est-ce que c'est utilisé, toutes ces données, tous ces profils et ces données personnelles?
Alors, on va essayer de faire au plus simple. Je vais reprendre ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fonctionnement de la publicité avant, où il y avait, moi j'étais en contact avec un site spécialisé sur tel pays, un autre spécialisé sur tel pays, et je créais un package de sites où je disais, j'ai des audiences en affinité voyage, et je vais les vendre à des annonceurs sur le voyage potentiellement. Ça, c'était bien avant, on travaillait en package. Maintenant, ça s'est énormément industrialisé, c'est-à-dire qu'il y a des outils très généraux, c'est-à-dire qu'ils sont... qui sont du coup intégrés à un petit peu à l'ensemble des sites qui permettent d'industrialiser les achats d'espaces publicitaires, donc notamment les bannières, pour prendre un exemple simple. Pourquoi cet outil a été créé? Parce que simplement, moi j'ai un site, imaginons que je suis le responsable du site voyagevoyage.fr, il y a 1 million de personnes qui viennent sur mon site, par contre je réussis à vendre que 70% de mon inventaire publicitaire. J'ai 30%, quoi qu'il arrive, je peux pas le vendre, donc j'ai un manque à gagner potentiellement.
Et donc, juste je précise, quand tu dis j'arrive pas à le vendre, ça veut dire que sur 30% des visites que tu as sur ton site, t'as pas de pub à afficher parce que personne n'a acheté cet espace.
Exactement, parce que potentiellement ma régie publicitaire ne faisait pas bien son travail, ne ramenait pas assez de clients ou avec des budgets pas suffisamment importants pour pouvoir prendre toutes les impressions que j'avais disponibles. Donc ça, c'était un besoin. Sur ce besoin, on a des personnes qui ont créé des outils qui se pluguaient un petit peu à des places de marché où les sites pouvaient dire, bah tiens, moi j'ai de l'inventaire de disponible je vous autorise vous à venir venir acheter directement chez moi. Donc ces grosses places de marché, ça fonctionne comme sur du trading, c'est-à-dire qu'on a des annonceurs d'un côté qui disent moi je viens chercher des sites, peu importe où ils sont, appartement où ils sont en affinité voyage potentiellement.
Ouais, c'est là où je me permets faire la distinguo. C'est vrai que les annonceurs viennent pour chercher des sites, mais une des raisons pour laquelle ces places de marché et la mise en commun des inventaires ont été créées, c'est que les annonceurs aujourd'hui ne cherchent plus des sites, cherchent des utilisateurs et des ventes. Et ces utilisateurs peuvent être sur plusieurs sites en même temps. Et le but, c'est de ne payer qu'une fois la pub pour aller sur cet utilisateur. Du coup, d'où l'objectif de ces places de marché, qui est de syndiquer, de mettre ensemble tous les inventaires publicitaires de chaque site et surtout d'être capable de reconnaître où sont les utilisateurs. Est-ce que Patrick Béja, quand il vient sur Amazon.com et quand il vient sur Facebook, moi demain, si je fais une campagne avec Amazon et une campagne avec Facebook, est-ce que je vais payer de la pub deux fois chez Patrick? Peut-être que j'aurais eu besoin que de la payer qu'une fois, cette pub, pour qu'il la voie, vu que c'est la même personne. Et le but, c'est de marcher.
Ce que tu veux dire, c'est que on va éviter d'avoir à m'afficher à moi la pub sur Amazon et sur Facebook, parce que si on l'affiche que sur Amazon, ça suffit, j'aurais vu le truc.
Oui, et surtout, je la paye qu'une fois. Faut pas oublier qu'on est dans une logique de rentabilité des coûts, ce qui a changé toute la donne, hein, versus la publicité print ou télé avant, où tu dépensais des budgets et tu connaissais pas vraiment les retours qu'il y avait, à part les boîtiers médiamétrie qui étaient complètement faussés. Aujourd'hui, on peut tout mesurer à l'individu. D'où la création de ces places de marché pour mettre ensemble ces inventaires publicitaires, mettre ensemble ces utilisateurs, de faire un peu un coup de tamis pour savoir qui est où et d'être capable de ne payer et d'engager la conversation avec un utilisateur qu'une seule fois.
Mais on va reparler du ciblage, et on a presque l'impression de comprendre qu'on cible les gens individuellement, mais je sais, parce qu'on a préparé cette émission, que c'est pas le cas a priori. mais je reviens vers Franck, du coup, du côté régie média, ce que dit Romain, c'est qu'on cible pas forcément les sites, d'ailleurs on ne cible plus les sites, mais par l'intermédiaire de ces outils de mise en commun, on va cibler des audiences. Et à la limite, quels sites sont derrière, on ne s'en préoccupe pas forcément, c'est ça ?
Ça dépend. L'explication par rapport aux places de marché, c'était vraiment pour recouper par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, dans le sens où sur Amazon, on sait que moi je suis Franck et que j'ai acheté telle chose. Par contre, ce que Amazon sait sur son site, il ne le savait pas avant, forcément, quand je naviguais sur un site de jeux vidéo. Ces places de marché, étant donné qu'elles sont globales et industrialisées sur énormément de sites, vont pouvoir dire en fait à Amazon, bah tiens, cette personne-là que tu as vu acheter ou regarder telle chose, bah moi je l'ai retrouvé deux jours plus tard ici. Est-ce que tu souhaites lui mettre une publicité ou pas? Et donc c'est vraiment ces outils qui ont permis de retrouver après et d'avoir une vision globale, et toujours grâce à cette donnée du cookie, de pouvoir dire, cette personne, je suis place de marché, je vois une personne arriver ici, à la telle ID, et après avant demander à tous les annonceurs, tiens Amazon, est-ce que tu connais cette ID? Ah oui, moi je le connais, je l'ai vu il y a deux jours sur mon site. Est-ce que tu veux lui communiquer? Oui, non. Pareil sur Facebook, pareil sur un annonceur lambda.
Mais alors, ces mises en commun, en fait, ces recoupements de profils, j'aimerais bien comprendre, et peut-être que vous ne saurez pas me dire exactement comment ça fonctionne, mais comment est-ce qu'on va savoir que tel profil qui a été construit par Amazon correspond à la personne qui a tel profil sur Facebook? Comment est-ce que ces profils sont mis en commun? Je ne suis pas sûr de vraiment saisir techniquement comment ça marche, puisque les cookies sont isolés eux aussi. Romain ?
Alors, savoir qu'il y a eu l'émergence de ces places de marché ont généré beaucoup de nouvelles technologies et beaucoup d'innovations sur le web. Et ça a notamment créé ce qu'on appelle des DMP, qui sont des Data Management Platforms, qui sont des écosystèmes techniques que les sociétés, comme n'importe quel site e-commerçant, installe chez lui et qui met à disposition tout ce bassin de données clients qu'il a, tous les gens qui achètent, imaginons chez moi, sur mon site de prêt-à-porter, tous les gens qui achètent, je connais ces gens-là, ils ont acheté chez moi, je connais leur compte, leur adresse email, les objets qu'ils ont achetés, et je suis capable de donner toutes ces informations à cette DMP qui donne aux places de marché l'information sous un format que un format unifié, standardisé, que tous les annonceurs et toutes les régies de la place de marché reconnaissent. Et il y a deux approches qui fonctionnent derrière, c'est que on disait tout à l'heure que la clé de reconnaissance principale, c'est le cookie, on utilise le cookie, et on disait aussi tout à l'heure que chaque site a son langage de cookie, que par exemple, toi Patrick, ton ID de cookie sur Facebook va se lire de la manière suivante, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ça va être ton ID, et ton ID sur Amazon, pour aussi faire simple, ne se lit pas 1, 2, 3, 4, 5, mais se lit ABCDEF. Comment est-ce qu'on recoupe ces deux cookies pour savoir que ton cookie Facebook et ton cookie Amazon sont les mêmes? Deux manières. Un, c'est d'utiliser de la donnée supplémentaire que moi je possède pour permettre de reconnaître ces cookies. Par exemple, l'adresse mail est-elle la même? Si c'est la même, on peut voir que c'est la même personne. On en déduit que c'est la même personne. Ça, c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on appelle une donnée déterministique. C'est un terme marketing statistique pour dire que c'est de la stat qui est déterminée. On le sait. Ton adresse mail, si c'est la même sur deux cookies, bon, bah, c'est toi derrière, c'est une seule personne. La deuxième approche, qui est vraiment très statistique et beaucoup plus scientifique, c'est l'approche probabilistique qui, là, calcule et met en place des sortes de comportements de navigation, des comportements d'achat pour permettre de reconnaître des gens. Par exemple, si telle personne, le matin à 8h, elle consulte un site sur son téléphone mobile, tous les jours, à midi, elle utilise non plus son téléphone mobile, mais son desktop à telle adresse IP, et que le soir, elle revient sur tel mobile, à partir de telle heure, sur telle adresse, elle vient sur tel site, elle se connecte avec tel et tel type de navigateur, on en tire des schémas, des sortes de schémas de concordance qui permettent de recouper les cookies entre eux, et de savoir que plusieurs cookies appartiennent à la même personne. Donc c'est cette double approche, un technologique qui est déterminé, qu'on sait... bah tiens, vous avez la même adresse email dans vos cookies, donc vous êtes la même personne, couplée à une approche statistique, probabilistique, qui fait qu'on arrive à déterminer des bassins d'audience et à suivre une personne, à suivre le parcours d'utilisation d'une personne sur Internet.
Mais du coup, il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit en même temps. ça veut dire que ces cookies sont partagés. Où est le... Parce que tu disais, oui, les cookies sont chiffrés et ne sont pas accessibles. Le Figaro.com ne peut pas accéder aux cookies de lemonde.fr. On est d'accord. Ou le Figaro.fr et lemonde.fr. C'est ça le cœur de la question, non?
Eux ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas d'intérêt à le faire. C'est comme si le poissonnier de la rue, de telle rue, allait donner sa clientèle à son poissonnier concurrent.
Bien sûr,
Figaro
c'est ça.
Et Le Monde ne veulent pas donner les cookies, mais par contre, ils ont la capacité de tous les deux aller mettre leurs cookies sur la même place de marché.
Alors,
et d'offrir la vue au plus offrant.
D'accord. Donc, il y a toutes ces données, tous ces cookies, tous ces profils qui sont finalement remontés au cœur de la toile de l'Internet et de la toile du marketing, que sont ces places de marché. C'est ça le cœur névralgique du marketing sur Internet aujourd'hui. C'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est ces places de marché-là qui, elles, ont accès aux données de tout le monde, finalement. C'est ça?
Exactement. Dis-moi si je me trompe, Franck, mais oui.
Oui, je te comprends. Je te rejoins là-dessus. Ils ont énormément d'informations.
Ouais.
Après, chacun a des technologies différentes pour les traiter, pour les approcher et travailler avec. Ça, après, c'est ce qui fait la différence entre eux. Bah, c'est aussi pour ça qu'il y a de la concurrence et heureusement. Chacun travaille différemment dessus. Je tiens tout de même à confirmer que tout ça, bien sûr, c'est des données cryptées. Quand on parlait tout à l'heure que, bah, potentiellement, on reprend l'exemple, hein, le pauvre Figaro et Le Monde, ils ont qu'à pas être aussi connus. Ils ont leurs propres cookies avec leurs propres données. Bien sûr, ils vont savoir que franck@gmail.com, c'est mon adresse. Mais ça, c'est une donnée qu'ils gardent, bien sûr, que pour eux. Après, tous les transferts de données sont cryptés pour que les seuls à avoir l'information réelle de l'identité soient celui qui en a le droit, à savoir si je me suis inscrit sur le Figaro, je ne veux pas que la place de marché connaisse mon adresse mail. Eux, ce qu'ils vont avoir, c'est une donnée cryptée de l'adresse mail qu'ils vont recoupler avec d'autres pour pouvoir reconnaître. Mais jamais ces trainees que vont avoir accès à mon information personnelle brute. D'autres informations personnelles sont dispo. Parce que derrière l'information personnelle, et la CNIL a fait un gros travail dessus, l'adresse IP est considérée comme une donnée personnelle. Ouais. Et c'est pour ça que ça a engendré aussi beaucoup de choses, beaucoup de changements, et on en reviendra après. Donc, il y a, dans les cookies, il y a des informations qui sont dites personnelles, qu'on perçoit pas comme personnelles parce que il y aura pas mon numéro de carte bleue, il y aura pas mon nom, mon prénom. Mais c'est des informations qui me permettent de me retrouver, et à partir de là, on considère, la loi considère que c'est des informations qui sont personnelles.
D'accord. Donc, les informations personnelles sont chiffrées et sont gardées, par les sites auxquels on les a livrés volontairement, mais il y a tout un faisceau d'informations de différents acteurs, enfin pardon, de différents oui acteurs du web qui sont montés vers ces places de marché, et donc les places de marché, je pense que c'est la question qui brûle les lèvres des auditeurs maintenant, c'est est-ce qu'il y a un méga profil sur les différentes places de marché? Alors il y en a plusieurs qui fonctionnent de manière différente, qui sont plus ou moins efficaces, j'imagine, et donc chez qui on peut aller pour placer nos pubs en fonction des offres qu'ils vont nous proposer. Mais est-ce que ces places de marché ont un profil par personne? Et j'imagine, est-ce qu'une place de marché peut dire bah, « moi, j'ai les profils de 30 millions de Français, et je sais où ils sont, je sais ce qu'ils font ». Mais est-ce que c'est un méga profil pour une personne? Est-ce qu'il serait capable? Et je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais c'est une question un petit peu alarmiste à la limite. Mais si moi, j'ai un accès illimité à cette place de marché, aux données de cette place de marché, est-ce que je peux retrouver Patrick Béja et savoir ce qu'il fait et où il navigue, peut-être pas avec super précision, mais est-ce que du coup, j'ai accès à toutes les données, non seulement des sites que je visite, mais aussi de Google, de Facebook, etc., qui sont réunis chez ces places de marché, puisqu'elles réunissent tous ces profils?
N'hésite pas trop longtemps à répondre, Franck.
un début d'information. Chaque place de marché a... Il y a énormément d'acteurs. Il faut se rendre compte que là, on n'est pas en train de parler d'un Google Biz qui maîtrise absolument tout. Il y en a, bien sûr, mais à leur hauteur. Dans le sens où...
C'est-à-dire, il y a combien de places de marché qui sont disponibles en France, par exemple?
Il y en a 3-4 grandes, mais dans ces 3-4 grandes, on va en mettre deux. Toutes les places de marché ne se valent pas. Et dans les 3-4 grandes, il y a Facebook et Google qui sont devenus aussi des places de marché, qui ont monté leurs places de marché.
Mais du coup, est-ce que dans ce contexte de place de marché, Facebook et Google ont accès aux données des autres ou ils se basent sur leurs données à eux?
Ils se basent sur leurs données à eux. C'est là justement où je voulais en venir et c'est là où c'est très intéressant. C'est dans le sens où chaque place de marché a sa propre donnée. On ne peut pas avoir une vue complète de chaque individu. C'est-à-dire que ce que Facebook sait est réduit à ce que je donne accès à ce que je donne comme information à Facebook. Alors bien sûr, il y a beaucoup de monde qui donne leur vie sur Facebook.
Je t'interromps pour préciser aux auditeurs que Facebook peut également avoir accès à des données de navigation qui ne sont pas directement liées à Facebook, puisqu'on a les petits boutons sur les pages de différents sites, de très nombreux sites, y compris le mien d'ailleurs. Et du coup, ça, c'est lié au serveur de Facebook et donc ça leur donne une information supplémentaire qu'on leur a pas donnée directement, mais qu'ils ont parce qu'ils voient où on va aller. Et il y a ce type de données aussi qui sont incluses. Mais vas-y, continue, Franck.
Exactement. Mais ce que je parle, c'est qu'il y a Facebook a ses données, Google a ses données, mais ils vont pas. Si demain on était une petite souris et qu'on allait voir le profil de ton profil, pas ton profil Facebook, mais les données que Facebook a sur toi, il y aurait très certainement énormément d'informations. Mais et bien sûr, il y aurait plein de choses qu'ils savent pas. Et heureusement, et parce qu'on n'a pas tous la même utilité d'Internet. Chacun, certains font que du Facebook, d'autres vont naviguer sur d'autres choses. Et bien sûr, et heureusement, Facebook n'a pas cette visibilité-là. Donc, il existe énormément d'autres acteurs qui sont spécialisés, qui vont pouvoir juste donner de l'information. Je prends des exemples. Il y a des sociétés qui se sont construites qui vont aller prendre la donnée que les internautes vont mettre dans les moteurs de recherche propres à chaque site. Alors, je prends chaque site, ça peut être pour reprendre des sites de presse.
Bah, le Figaro, Le Monde.
Les personnes vont marquer, ou alors sur des sites d'entraide externe, ils vont marquer bah, tiens, j'ai machine à laver cassée, comment la réparer? Et ils vont mettre ça sur un moteur de recherche. Des nouvelles entreprises, enfin, nouvelles, maintenant quelques années, mais on va dire assez nouvelles, les entreprises ont mis en place des partenariats avec des très grands sites pour pouvoir justement venir récupérer la donnée de ces moteurs de recherche. Machine à laver cassée, ils vont avoir 2-3 mots-clés, machine à laver cassée, et ils vont dire, bah tiens, ça c'est une information qui est super importante. Et ça, ni Facebook, ni... Alors, Google peut l'avoir parce que, bien sûr, ils ont leur moteur de recherche. Mais on va dire que ça, c'est propre à chaque site. Et
c'est pas super important pour tout le monde, mais pour un vendeur de machines à laver, c'est une belle information.
Ah, bien sûr, ou un réparateur, oui.
Ou un réparateur. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a plein d'autres acteurs qui sont arrivés et qui vont réussir à mettre en place d'autres moyens d'avoir des données qui peuvent être utiles à un moment T pour certains annonceurs. Donc là, la machine à laver, c'est sûr que si je vends des voitures, bon, je m'en fiche un petit peu. Par contre, si je suis un acteur qui vend ou même qui répare des machines à laver, forcément que je serais intéressé de pouvoir communiquer auprès de cet internaute. Donc, tout ça pour dire que finalement, voilà, Facebook a des données qui sont relatives à ce que nous on leur donne, Google également, mais il y a beaucoup d'autres acteurs qui vont pouvoir donner l'information. Si je prends l'exemple d'une voiture, ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que j'ai envie de changer de voiture ? Pas sûr que Facebook va le savoir très facilement. Par contre, d'autres acteurs vont pouvoir identifier ce besoin qui arrive doucement, parce que je vais comparer, je vais commencer à regarder des fiches, je vais regarder un peu combien pourrait me coûter mon assurance, etc. Donc bien ça, sûr. C'est des données que chacun, de manière fragmentée, va réussir à avoir, mais sans savoir qui je suis derrière, ils vont juste avoir une idée de cookie, et grâce à ces places de marché, ils vont pouvoir dire, bah tiens, j'ai une information sur tel cookie. Est-ce que quelqu'un est intéressé par cette information ? Et là, on arrive sur un autre métier, qui est celui de data provider, donc fournisseur de données, où nous, là, on ne vend pas de l'inventaire directement, on vend juste de la donnée. Je sais que tel identifiant a un besoin avéré sur une machine à laver, potentiellement.
Pour reprendre cet exemple. J'ai encore un petit peu de mal à saisir exactement comment ça fonctionne et comment se font tous ces échanges de données. Et je crois qu'on va arriver à des questions programmatiques et de bassins d'utilisateurs plus que de profils personnels. Mais j'ai quand même l'impression, Franck, que t'as pas tout à fait répondu à ma question. Si sur la place de marché, on va chercher une personne en particulier, est-ce qu'on va pouvoir trouver ces données alors peut-être que tout est chiffré et que légalement on n'a pas le droit, mais qu'on pourrait le faire comme si on avait accès, je sais pas, aux données de la police nationale, et que c'est pas parce qu'elles existent quelque part qu'on y a forcément accès. Mais est-ce que, enfin, peut-être que vous savez pas non plus, est-ce que c'est possible ou pas de retrouver les informations sur une personne précise?
Non, en clair, ton nom, ton prénom, ton adresse, qui tu es, qui pourrait permettre de t'identifier toi, tu ne pourras jamais les retrouver sur une plateforme d'échange, sur ces places de marché. Tout est anonymisé et pseudonymisé bien en amont, au moment où il y a un dépôt de cookies sur ton navigateur, au moment où tu es déjà sur un site Libération, pour changer.
Peu d'originalité.
Avant qu'ils ne vendent cette donnée à la place de marché, la donnée est complètement verrouillée, anonymisée, cryptée. Et donc, quand bien même en théorie, on pourrait retrouver toi, ton parcours, ton identifiant et une espèce de métafiche de qui tu es sur Internet, quel est ton comportement d'achat, on ne pourrait jamais le recouper avec toi, Patrick, ton identité en tant qu'individu.
Bon, ne disons jamais, parce qu'on sait qu'on peut désanonymiser des sets de données et casser des chiffrements, évidemment. Mais disons que c'est prévu pour protéger les données les plus sensibles, au moins. Donc du coup, on arrive aux questions des bassins d'audience et à la programmatique, qui est très liée à celle des régies. Qu'est-ce que c'est exactement que cette programmatique ? Parce qu'on a bien senti qu'il y a beaucoup d'automatisation et d'industrialisation dans tout ce dont vous nous avez parlé. Mais concrètement, cet acte d'achat, cette sélection d'audience, ce ciblage finalement, si j'ai bien compris lors de notre préparation, Franck, tu me disais que c'est réuni sous le terme de la science de la programmatique, je dis volontairement la science. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Tout est automatisé. Qu'est-ce qu'on fait quand on est annonceur ou régie pour toucher un certain type d'audience ? Comment ça se passe très concrètement ? Quelles données on rentre dans l'ordinateur ? Et qu'est-ce qui se passe avec ces données ?
Alors ça rejoint ce qu'on disait justement par rapport à toute cette enveloppe de places de marché, dans le sens où on va pouvoir, chaque acteur a ses capacités de ciblage, dans le sens où il y en a qui vont pouvoir dire je souhaite cibler toutes les personnes qui ont des voitures, des berlines, ou alors plutôt des citadines, etc. etc. Donc j'ai pas de réponse universelle à donner, dans le sens où chaque technologie va avoir ses capacités de ciblage différentes. En tout cas, pour donner des cas, un exemple un peu global, on va pouvoir dire, je voudrais cibler plutôt des hommes, ou alors que des femmes dans telle région de la France. Je voudrais pouvoir communiquer sur eux plus tôt le matin que l'après-midi. C'est des choses qu'on peut mettre en place et qui ont des affinités. Donc là, on va parler d'affinité, affinité jeux vidéo, affinité auto, affinité finance potentiellement. Et à partir de là, la place de marché, du coup, je configure et elle va regarder les informations qu'elle a par rapport à ça.
Donc tu as une sorte de formulaire géant dans lequel tu vas pouvoir avoir plein d'options. Et tu vas dire je veux tel et tel et tel et tel type d'audience, et ensuite la place de marché, rappelons que la place de marché ça peut être Facebook ou Google ou même d'ailleurs Amazon qui s'est lancé sur dans le domaine également récemment, ou d'autres entre guillemets indépendants. Donc j'imagine que en fonction des besoins de tes différents clients, tu vas peut-être t'adresser à différentes places de marché ou à plusieurs en même temps, tu vas remplir les grands formulaires. Et il va te sortir au final, bon, bah, ça va vous coûter tant d'argent pour quoi ? Pour tant d'impressions, pour tant de clics, pour tant d'actions. Et puis tu vas dire oui ou non, j'accepte, et tu payes, et l'argent est transféré vers la plage de marché qui redistribue ensuite vers les gens qui leur ont fourni ces données, c'est ça ?
C'est différents sites, c'est exactement ça.
Ouais. C'est ça. T'as abordé un point qui est intéressant, Patrick, c'est que toute la méthode d'achat se fait à l'enchère, de manière générale. Il y a d'autres cas, il y aura toujours des gens pour dire oui, mais il n'y a pas que. La méthode d'achat principale sur les places de marché programmatiques se fait à l'enchère. C'est-à-dire qu'on dit, moi, je suis prêt pour quelqu'un qui connaît une femme qui souhaite acheter une voiture citadine qui est une CSP+, qui gagne entre temps et temps par an. En fait, je suis prêt à mettre... je sais pas, on va dire 6 euros pour 1000 affichages. Je suis prêt à payer 1000 affichages de cette pub, 6 euros, auprès de personnes qui ont ce profil de intentionniste, voiture citadine, femme, CSP+. Et tout se fait sur les plateformes, sur les places de marché, tout se fait de manière complètement automatisée, à l'enchère, c'est-à-dire qu'ensuite, ça va être les annonceurs qui proposent leur tarif, moi je suis prêt à mettre 6 euros, moi 7, moi 8, machin. Et sur un format, ce qu'on appelle le coût par 1000 impressions, CPM. On achète ça sous ce format-là.
Et c'est toujours à l'impression, donc à l'affichage, c'est pas au clic.
Ouais, parce qu'en fait, c'est la méthode, ça c'est pour que les places de marché et que les sites type qui donnent de la donnée et de l'inventaire type Libération, Figaro, Le Monde, ça représente ce qu'il y a de moins risqué pour eux. L'impression qu'on clique dessus, qu'on achète derrière, eux, ils s'en fichent. Là, ils vont être payés juste pour mettre la pub. Mmh. Parce qu'il y a d'autres modèles d'achat publicitaire qui sont, par exemple, ce qu'on appelle des modèles à la performance. C'est-à-dire quand il y a vraiment que l'affichage répond à un objectif direct de l'annonceur, par exemple la méthode de paiement à l'achat, c'est-à-dire que je vais ne payer lemonde.fr que si la personne qui aura vu ma pub a réalisé, a concrétisé un achat derrière.
Et ça, on réussit à suivre la personne du moment où elle clique sur une pub jusqu'à l'achat, j'imagine avec les cookies, et du coup, il faut que ça se fasse dans les 30 jours, mais c'est quand même...
Tout à fait. Exactement, en fait, ça c'est les personnes, sur les marketeurs, sur les annonceurs, pour le... C'est de mon côté, c'est sur ce quoi je travaille tous les jours. Nous, sur notre site, on a la capacité de dire, ah bah tiens, ces cookies-là, ils viennent, c'est un cookie qui vient par exemple de lemonde.fr, et le dernier cookie, le cookie le plus récent de cet utilisateur, il vient de Le Monde. Du coup, je vais rétribuer Le Monde pour le remercier de m'avoir apporté quelqu'un qui a fait générer une vente.
C'est comme les liens d'affiliation dont on entend souvent parler.
C'est ça, exactement. Le lien d'affiliation, c'est simplement des liens qui rétribuent la personne, le site, on va dire, qui rétribue le site qui a aider à concrétiser un achat, l'espèce de buteur. Si tu prends l'exemple d'une équipe de foot, l'affiliation ou le modèle à la performance rétribue celui qui a marqué le but, pas le passeur, pas celui qui a fait la passe décisive ou pas les neuf passeurs de derrière.
Mais du coup, c'est un modèle qui, visiblement, d'après ce que vous dites, est un petit peu moins...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Apprécier des sites parce que eux, ils préfèrent avoir une sorte de sécurité, de fiabilité, de stabilité. Ils savent, bon, bah, j'ai tant d'affichages, ça va me rapporter tant d'argent et pas besoin de savoir si oui ou non ça se concrétise. On va pas jouer au loto avec est-ce que ouais, la personne exactement. Va aller acheter ou pas. Je reviens vers toi, Franck, du coup, toujours dans ce contexte de mécanique d'achat. Tu as un annonceur, par exemple, Romain, ou quelqu'un d'autre, ou Patrick, tiens, super, comment je l'avais appelé, ma super société, Super Gaming, Patrick Béja, qui vient te voir. Est-ce que tu peux nous expliquer de A à Z, ou de 0 à 100, comment ça se passe concrètement, en quelques minutes, de l'entretien, c'est-à-dire, je fais quoi, moi, je décroche mon téléphone, je dis, bonjour, monsieur Crémon, je voudrais faire de la pub pour tel truc, et comment on arrive de là à... peut-être voir ma pub affichée, voire même un utilisateur qui va venir sur mon site ou acheter mon produit et qui va me dire « Ah bah, j'ai vu votre pub à tel endroit, c'était super, c'est grâce à ça que je suis venu, que je vous ai découvert. » Comment ça se passe? Quelles sont les différentes étapes?
Alors, la première étape, c'est on reste quand même des commerçants dans le sens où, où on va d'abord demander les objectifs. Non, c'est la première étape.
Le budget.
La première question, c'est le budget, c'est savoir. Parce qu'en fonction de ça, l'entretien peut être très rapide, hein, finalement.
J'ai 14 euros, en fait. Donc, qu'est-ce que je peux faire?
Oh, bah, acheter deux kebabs et...
Et écoute, ça me paraît bien investi, quand même.
Exactement. Non, concrètement, d'abord, comprendre tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que bien sûr, en fonction de ton objectif, on peut travailler de mille manières différentes. Et ça rejoint ce que disait Romain. Si tu me dis, moi, je veux faire des ventes, on va plutôt aller chercher des buteurs. Si tu me dis, je veux faire connaître mon site parce qu'il n'est pas connu du tout, là, on va aller plutôt chercher, non pas des buteurs, mais des influenceurs. Des influenceurs, bien souvent dans le football, c'est aussi des buteurs, mais c'est ceux qui vont faire connaître, qui vont avoir la capacité d'avoir une belle résonance et faire découvrir ta marque au plus de monde. Donc des sites de presse, par exemple, c'est des carrefours d'audience, il y a énormément de personnes qui viennent dessus. Donc c'est des beaux exemples sur lesquels on peut être positionné pour faire connaître une marque, faire connaître un produit, etc. Donc ça, c'est la première question. Quel est ton objectif? À partir de là, on essaie d'en savoir un peu plus sur ton site. Ça permet deux choses. Ça permet de savoir si les objectifs sont ton besoin et ton objectif est réalisable, et savoir comment est-ce qu'on va réussir. Donc, les questions, c'est combien de visiteurs tu as déjà sur ton site. Si tu me dis, je veux faire 10 000 ventes le mois prochain, et si tu me dis que tu as 100 visiteurs qui viennent sur ton site, je vais te dire tout de suite que ça va être très 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 compliqué, forcément. Donc combien de visiteurs tu as sur ton site, ça peut être potentiellement combien aujourd'hui tu fais justement de ventes, avoir une fourchette, etc. Et le budget, parce que ça va aussi, là encore, c'est pas une raison pécuniaire, c'est de mettre en face notre capacité à répondre à des objectifs en fonction des moyens que tu nous donnes. Une fois que tout ça c'est fait, bien sûr, nous on va travailler, et ce qui intéresse le plus, sur la mise en place de la campagne sur nos outils. Donc là, ensemble, on définit les cibles à aller toucher. Donc bien sûr, vu que c'est ton site, normalement tu es la meilleure personne qui peut nous conseiller sur les cibles à aller toucher. Donc tu vas me dire, moi c'est que des hommes, il y a vraiment aucune femme qui est intéressée par mes produits. Donc là, déjà de base, on sait que on va configurer, nous, nos outils pour aller toucher que ce type de personnes. Et après, on va essayer d'aller, justement, via les places de marché, configurer pour aller chercher des personnes qui sont le plus en affinité avec tes produits. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va essayer de venir analyser sur ton site qui sont les visiteurs et qui sont ceux qui achètent. Parce que, bien sûr, la meilleure façon de pouvoir toucher une personne dans ta cible, c'est de regarder ceux qui sont déjà consommateurs. Et à partir de là, on va essayer d'aller cibler des profils jumeaux statistiques, voilà, qui correspondent, qui ont les mêmes attraits que toi d'un point de vue statistique. Bah, tiens, on se rend compte que les personnes qui vont et qui achètent sur ton site, ils vont énormément sur des sites de beauté, par exemple. et après sur des sites de telle et telle chose. Donc nous après on peut mettre en place des scénarios et des statistiques qui nous permettent de dire bah, on a beaucoup plus de chances d'aller toucher la cible de Patrick si on est positionné sur telle cible, telle cible, telle cible.
D'accord.
Donc ça c'est la mise en place, et après bien sûr il y a un travail quotidien pour vérifier si les suppositions qu'on a fait au début sont bonnes, si la machine qui est beaucoup plus intelligente que nous aujourd'hui hein, fait bien son boulot, et de contrôler l'ensemble et de donner de la visibilité par rapport aux opérations qu'on met en place.
Donc du fait, j'imagine, en fonction des budgets que vous avez et des annonceurs avec lesquels vous travaillez, plus ils sont gros, plus vous allez être corriger les opérations avec minutie et suivre au jour le jour. Il y a aussi des gens, entre guillemets, normaux ou des petits sites pour lesquels soit vous allez juste faire la traduction des besoins sur les sites en programmatique, soit carrément, j'imagine qu'ils peuvent utiliser les sites directement, non ? Ou est-ce qu'il y a des moyens de faire ça, avec moins d'expertise évidemment, mais d'aller sur les sites de programmatique et de... Je sais que c'est possible sur Google, par exemple, avec
tout à fait.
AdSense, ouais.
Tu l'as, en fait, tu as répondu à la question
que
tu as posée. Tu as répondu à ta question. C'est qu'il y a aujourd'hui la porte d'entrée sur le web marketing, ça reste Google. Google reste, c'est la page d'accueil de tout le monde sur chaque navigateur. C'est l'adresse email de, je ne sais pas, 30 ou 40% des internautes, c'est du Gmail. Ça reste la porte d'entrée également, du coup, marketing. Google a déployé des efforts qui sont colossaux pour faire de la publicité quelque chose de trivial sur Internet. Et aujourd'hui, n'importe qui, avec toi, moi, avec une simple carte bleue, peut venir en quelques clics et qui sont exprimer ses besoins. Tu peux venir exprimer tes besoins en quelques clics auprès de Google. C'est très didactique, c'est très vulgarisé, c'est très visuel. Et faire de la publicité de manière programmatique sur un réseau de sites aussi large... C'est large que performant.
C'est d'ailleurs, on rentre le truc, et comme vous le disiez, une sorte de gloubi-boulga de mise en commun de données, de sites et d'affichage, et on ne sait pas vraiment où ça part, quoi. On sait qu'on va avoir tant d'affichages, tant d'impressions, mais ça part, et puis on ne sait pas qu'on va décider sur quel site ça va. D'ailleurs, y compris sur... c'est la même chose un petit peu sur Facebook, sauf que là, on va faire de la pub que sur Facebook. On va dire, je choisis tel pays, telle tranche d'âge, tel truc... Et on peut promouvoir une mise à jour, et ça va s'afficher sur tant de profils. Mais on ne sait pas vraiment comment ça se passe derrière. Et à la limite, ça importe peu, puisqu'on est encore une fois basé sur ce dont vous parliez au début, ces bassins d'audience qui sont des ciblages par catégorie et pas du tout par...
Pardon, vas-y, je t'en prie, Romain.
Juste une seconde sur ce point-là, c'est assez intéressant la notion de « on s'en fiche d'où ça vient, où ça part, le trafic ». C'est assez vrai aujourd'hui, c'était beaucoup moins vrai auparavant, car le fait de ne pas savoir où part ton trafic, c'est-à-dire que ton trafic, ta publicité peut être consultée non pas par des humains, mais par des robots. Et il y a un très grand problème de fraude sur Internet et sur la publicité sur Internet, de sites assez malveillants, qui arrivent à lire les publicités de manière, sur des volumes colossaux, donc à générer de fausses performances publicitaires. Le but étant pour eux d'amasser un maximum d'impressions. On disait qu'en programmatique, tout était payé au coût par mille impressions. Le but de ces robots est de générer des milliers d'impressions pour que leur site malveillant soit rémunéré par l'annonceur. Aujourd'hui, c'est moins vrai parce que les places de marché, là, ce fameux gloubi-boulga, cette méta place de marché où tout le monde est dessus, tous les annonceurs, tous les sites, toutes les régies, et là où on fait tous les échanges de données et de publicitaires, il y a une sorte de méga vérificateur au-dessus de cette plateforme, un standard de validation pour être certain ou s'assurer qu'il n'y a pas de fraude et que ce sont des vrais humains qui consultent les publicités. Donc aujourd'hui, c'est assez vrai, on s'en fiche de savoir où partent un peu les publicités. Auparavant, c'était très touchy, ça pouvait partir sur des sites malveillants, des sites qui font la promotion de contenu haineux, de contenu pas très adapté à certains produits, à certaines audiences. Donc, voilà. Le monde a beaucoup changé dans le bien pour ça, sur Internet. On a beaucoup plus de vérification et de garde-fous contre la fraude.
Franck, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on parte sur justement la réglementation et le RGPD, etc.
Ça rejoint ce que dit Romain, c'est que c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, dans le sens où avant on était vraiment en one-to-one avec chaque site, donc forcément on avait un contrôle humain derrière en disant bah, on sait qu'on est sur ce site, sur ce site, sur ce site, dans un cadre de diffusion fermé comme on dit, et on se posait pas, bah, on n'avait pas besoin de se poser la question où est-ce qu'on allait être, parce qu'on le savait de base, c'est ce qu'on nous vendait. Aujourd'hui on vend des audiences, donc c'est un petit peu contradictoire de dire je voudrais cibler telle audience, mais par contre je veux pas être mis sur tel site, tel site, tel site. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que des fois, on ne peut pas avoir de contradiction en disant « je voudrais cibler des intentionnistes automobiles, par contre, je ne veux pas être sur, bah, sur potentiellement les sites où vont se rendre ces audiences.
» Est-ce que tu fais référence à des sites
Non, mais on peut le dire, on a cité, en bien, on a cité les trois plus grands sites de presse de la collective depuis tout à l'heure. Un des sites qui, souvent, qu'on demande de bâcher parce qu'il passe souvent. Tu as par exemple des sites d'opinion politique un peu tranchés, comme Boulevard Voltaire, sur lesquels on est toujours obligé d'émettre en disant, bah non, on veut pas que nos publicités soient affichées sur ce site parce qu'il émet des opinions politiques qui sont,
C'est très vrai dans le luxe notamment. Le luxe est hyper regardant et eux vont demander à travailler sur des même si c'est la data, donc les audiences qui vont optimiser et livrer les campagnes, livrer les impressions, ils vont demander moi j'ai pas envie que ma marque de luxe soit associée à tel site, tel site, tel site, enfin, tel groupe.
Je pensais que vous alliez me parler de sites pornographiques et ce genre de choses, mais oui, là
c'est tellement logique. Oui, ça c'est logique, bien sûr. Oui, par défaut, même la partie politique, on peut le préciser, mais c'est bien sûr, c'est vrai. Toutes ces choses-là sont vérifiées. Les sites pour adultes sont hors du scope de beaucoup de personnes du marché, sauf bien ceux qui sont spécialisés là-dedans, bien sûr, qui ne vont pas avoir la publicité pour le site de Patrick sur un site pornographique.
Sachant que du coup, il y a des régies publicitaires qui sont spécialisées dans la promotion de publicité sur les sites pour adultes et pornographiques. Ça représente, il ne faut pas oublier, les requêtes sur ces sites-là représentent 70% du volume de requêtes sur Google au niveau mondial. 70% des requêtes sur Google sont des requêtes liées à du contenu adulte ou du contenu pornographique.
Tu veux dire que 70% des recherches de Google, c'est cul, porno, ce genre de choses ?
Oui, ce genre de mots-clés, exactement.
D'accord.
Je peux même te dire qu'il y a des grosses avancées technologiques sur le digital qui ont été apportées de grâce, entre guillemets, grâce à ces sites.
Mais tu te souviens de cette vieille chanson sur Internet qui avait fait le buzz qui s'appelait The Internet is for Porn.
Oui, tout à fait. Oui.
Et ça reste c'est assez cocasse. Mais comme dit Franck, énormément d'avancées sont faites par ce milieu-là, qui est un peu plus malin que les autres parce qu'il doit passer outre les garde-fous qu'on met en place. En effet, ça reste la principale industrie sur Internet.
C'est lié, hein, forcément, vu que c'est là où il y a le plus de monde qui se rend, ils sont en avance par rapport aux problématiques, même si certaines problématiques sont liées à leur secteur d'activité. Mais ils peuvent être avant-gardistes sur certains sujets parce qu'ils ont tellement de trafic qui vient sur leur site qu'ils connaissent ces besoins avant les autres. Donc, ils se mettent à y répondre avant les autres également.
Et tu vois, mais chez eux, il y a rarement le bouton like Facebook, tu vois.
Effectivement.
C'est pour dire que oui, on peut mettre en place des restrictions par rapport à certains sites. Certains annonceurs qui sont beaucoup plus généralistes font confiance dans la technologie et ils se disent, d'accord, moi, même si je suis un vendeur d'habits pour hommes, si la technologie se rend compte que sur le site de beauté féminine, c'est un homme et qui peut être dans ma cible, je suis d'accord pour qu'on lui affiche de la publicité, même si c'est sur un site pour femmes. Parce qu'on sait que derrière l'individu qui se cache derrière, ça peut être ça peut être n'importe qui. Et la technologie sait qu'elle est dans la cible, donc à partir de là, il n'y a aucun problème pour pouvoir aller communiquer sur cet individu, même s'il est sur un site qui n'a rien à voir avec...
D'accord. D'où l'intérêt, effectivement, pour tous les sites qui participent à ces places de marché. J'imagine, aujourd'hui, la plupart des grands sites sont inscrits à une ou plusieurs places de marché, j'imagine. France, hein, mais tous les sites, n'importe quel site, dès qu'il y a de la pub, de toute façon, ils vont être sur une place de marché. Ils vont pas...
Une ou plusieurs, même.
Une ou plusieurs,
Il y a peu de places de marché qui ont des exclusivités. Justement, c'est l'avantage, c'est de pouvoir, un site, il a tout intérêt à travailler avec une ou plusieurs places de marché pour pouvoir profiter des données ou des partenariats que la place de marché va avoir avec tous les annonceurs.
Tu sais, c'est toujours le même cycle dans la tech. Au début, dans tous les gros sites, ont voulu internaliser leurs ressources et ont voulu créer leur place de marché, chacune, en disant « moi, j'ai la meilleure donnée ». Le Bon Coin, par exemple, a créé sa régie, sa place de marché. Enfin, pas sa régie. Le Monde a créé sa régie. Amazon a créé sa régie. Tout le monde a créé sa régie. Donc, en fait, on s'est retrouvé dans un écosystème où il y avait autant de régies que de sites. Donc, c'était comme si tu travaillais en finale en direct avec les sites. C'était comme avant. Ouais. Et là, t'en as un qui arrive, qui met les deux pieds dans le plat, qui dit, bah, moi, j'ai créé une technologie pour tous vous rassembler. Un anneau unique pour tous les rassembler. C'était une place de marché où toutes les petites places de marché vont venir s'intégrer. Et je deviendrai la meilleure. Et puis tu vas voir, le cycle va évoluer. Demain, tu en auras un concurrent à cette méta place de marché qui va, il va dire, bah non, venez chez moi, je suis meilleur. C'est-à-dire, il y en a plusieurs qui vont arriver. Et sûrement, dans 5 ans, il y aura quelqu'un qui va dire, bah non, moi, je suis une méta place de marché qui peut intégrer, c'est déjà méta place de marché. Et on va être dans un
donc
cycle
on est dans
d'évolution
ce genre de cycle.
Technologique comme ça. Exactement.
D'accord. Bah, j'aimerais parler de tout ça pendant des heures encore, mais il faut quand même qu'on évoque les questions de la réglementation et du RGPD. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a changé? Où on en est? Parce que ça a quand même été un tremblement de terre dans ce domaine, j'imagine, le RGPD.
Oui et non.
Oui et non, d'accord.
Je vais te laisser commencer, Franck. Ça peut être intéressant.
Là, tout de suite, il refile le ballon quand c'est un petit peu plus compliqué. Hein.
Parce que je pense que Franck, en tant que régie et d'agence, est impacté de manière plus directe que moi en tant qu'annonceur.
Bien sûr, bien sûr.
Oui, les deux. Alors, RGPD, grosso modo, c'est le règlement général sur la protection des données.
Dont on a beaucoup parlé dans l'émission.
D'accord. Le but premier, c'est vraiment de pouvoir redonner à chaque utilisateur, donc moi, Romain et toi, le contrôle sur qui a accès à quoi. Dans le sens où, bah, justement, demain, donc ça rejoint avec tout ce qu'on a dit avant, hein, c'est que quand je navigue sur le site de Patrick, potentiellement le tien, je suis d'accord pour que toi, tes informations sur mon navigation. Par contre, la place de marché qui regarde un peu ce qui se passe sur ton site, j'ai pas envie qu'elle sache. Je lui ai rien demandé, je la connais même pas, et j'ai pas envie qu'elle sache que je suis en train de naviguer sur ton site. Potentiellement. J'ai pas envie.
C'est ça qu'on
j'ai
fait, pas... en fait, quand on détermine l'utilisation des cookies, si on prend le temps d'aller regarder avec quel partenaire extérieur il partage nos données, ces différents sites, c'est ça qu'on détermine. C'est le fait de se dire, telle place de marché ou tel autre partenaire pourra avoir accès aux données que j'ai sur toi grâce à ces cookies. Et ça concerne que les cookies ou les d'autres données qu'ils peuvent avoir si on s'est inscrit sur le site?
Ça peut être d'autres données. Oui, c'est principalement les cookies. Après, bien sûr, il y a d'autres données, mais là, j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus du bon sens, même si pour certains acteurs, c'est pas. Dans le sens où, si je m'inscris à la newsletter du site de Patrick, j'ai pas envie que mon adresse mail se retrouve demain sur le site dans la base de données de Franck.
Ça, non, mais c'est ça, on était déjà
du bon sens. Mais oui, mais le RGPD remet en place,
remet
une couche parce que mine de rien, ça nous est tous arrivé de recevoir un mail d'une base qu'on n'a jamais entendu parler et on se dit mais qui c'est celui-là, je reçois un mail, je me suis jamais inscrit chez lui. Et je clique sur le désabonnement, je reçois plus de mails de cette base-là. Par contre, 2 semaines après, je reçois un mail d'un autre acteur, je sais pas qui c'est. Il me vend des trucs, mais comment il est mon adresse mail? Donc tout ça, bien sûr, c'est des bonnes pratiques que le RGPD renforce là-dessus. Ouais. Mais il redonne surtout le contrôle pour savoir à qui je donne accès. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est un point très important, et même aujourd'hui, donc c'était quand? C'était le 25 mai, si je dis pas de bêtises, que le RGPD a été appliqué. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont soit pas conformes au RGPD, soit qui n'ont pas encore une bonne vision de ce qu'est le RGPD. Dans le sens où, quand on arrive sur un site, le fait qu'il y ait marqué en bas du site « Attention, l'utilisation de vos cookies via des partenaires peut avoir lieu », ça, c'est absolument fini. Ça, c'est plus conforme avec la loi. Ce qu'il faut, c'est avoir un module qui soit présenté à l'internaute, qui soit visible, voire même qui puisse ne puisse pas être visible, entre guillemets, et qui donne accès à l'internaute à l'ensemble des acteurs qui pourrait avoir accès à ses données personnelles.
Mais
moi,
du
en
coup,
tant qu'internaute, je choisis, lui, je veux bien qu'il ait accès, lui, je veux pas, lui, je veux bien, lui, je veux pas.
C'est marrant parce que expliquer comme ça, ça a beaucoup de sens, mais quand on les voit à froid, c'est difficile de comprendre que c'est ça qui se passe.
Exactement.
Et peut-être qu'il y a un petit peu d'obfuscation et les fameux dark patterns qui font que, bon, on veut pas trop que vous compreniez quand même, même si sur le papier, on est en conformité avec la loi.
C'est pas parlant. Un Facebook, un Google sont tellement connus que, ok, on sait qui se cache derrière Google et enfin, on sait qui est Google et qui est Facebook. Par contre, moi, régie publicitaire qui m'appelle ABCDEF, par exemple, moi, en tant qu'internaute, je veux ABCDEF veut avoir accès à vos cookies. Non, je sais pas qui c'est lui. Mmh. Alors que de nature, ABCDEF est un partenaire qui est sur lequel l'annonceur, enfin le site sur lequel je suis en train de naviguer, peut pas se passer. Parce qu'il a un fonctionnement et un partenariat avec ABCDEF et le site de Paris, potentiellement, qui est très fort. Et si jamais moi, internaute, je donne accès j'autorise Patrick à accéder à mes données, mais pas au partenaire ABCDEF, bah toi, Patrick, tu seras peut-être demain très ennuyé. Parce que toi, tu n'as pas la capacité de pouvoir potentiellement me retrouver sur le net. Je te donne un exemple concret. Parce que j'imagine que ça peut être un peu flou dit comme ça. Je suis sur un site de jeux vidéo et je navigue sur le site, je suis en train de regarder un article sur un jeu qui va bientôt sortir. Toi, t'es propriétaire du site, tu te dis bah tiens, j'aimerais bien pouvoir dans deux semaines quand le jeu vidéo va sortir, envoyer des bannières à l'ensemble des personnes qui sont venues sur cet article qui présentait la sortie du jeu vidéo pour leur dire bah tiens, le jeu vidéo est sorti, venez l'acheter sur mon site. Donc pour ça, tu as besoin d'un partenaire qui est une régie commerciale. La régie qui va pouvoir justement acheter des inventaires un peu partout. Donc si moi, en tant qu'internaute, je dis j'accepte que le site de jeux vidéo ait accès à mes données personnelles, mais pas le partenaire qui va permettre de me retrouver, bah toi, en tant que site vendeur, t'es bloqué. Parce que tu vas pas pouvoir donner à ton partenaire qui est en capacité de retrouver l'internaute le droit de le faire, en fait.
Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, tu reproches un petit peu les restrictions du RGPD, finalement, là, Franck.
Non, je reproche pas. Je dis juste que c'est... je rebondissais par rapport à ce que tu disais, dans le sens où, bien sûr, c'est pas parlant. Quand on est sur le RGPD, on va se dire la société XYZ veut accéder à vos données personnelles. Bah, moi, je veux dire... Tu sais pas ce qu'ils font,
tu comprends pas à quoi ça sert.
Quand on donne le choix, on mettra plutôt...
La mesure, selon moi, la mesure de la RGPD qui avait quand même vocation à protéger et à informer l'utilisateur final, c'est un peu tirer une balle dans le pied dans le sens où la loi est encore très floue, même aux yeux des annonceurs, aux yeux des régies. Les obligations, par contre, visuelles pour informer l'utilisateur de quelle utilisation sera faite de leurs données sont assez intrusives alors qu'elles avaient vocation à empêcher les comportements intrusifs des publicités. Je veux dire, aujourd'hui, sur son téléphone, avant de pouvoir accéder au contenu d'un site, il faut faire 2 à 3 clics pour dégager des pop-in ou des fenêtres qui s'affichent. Il y a un sort d'effet pernicieux et le fait que cette mise en conformité, il y a eu cette date du 23 ou du 25 mai pour que tout le monde soit en conformité là-dessus a fait que d'un coup, tous les utilisateurs se sont fait demander leur consentement par tous les sites qu'ils consultaient et tout le monde s'est fait... Enfin, ça a eu l'effet inverse de... Tout le monde a reçu des centaines d'emails pour dire « Bonjour, maintenant, nous faisons attention à votre donnée et à votre sécurité, notre priorité. » Fallait cliquer, c'était un vrai jeu de piste sur tous les sites, cliquer sur « Ok, j'ai bien compris, d'accord, mes cookies seront utilisés », ce qui fait que je pense qu'au bout d'une semaine, tous les utilisateurs ont pris l'automatisme et l'habitude de cliquer sur ces trucs-là et n'y font même plus attention.
J'avoue que moi-même... D'ailleurs, le pire, c'est que quand tu reviens sur un site ou sur un device différent, ou si tu navigues en privé comme c'est mon cas sur certains de mes devices, bah t'as ce truc à chaque fois quoi. À chaque fois,
exactement,
tu es obligé de recliquer. Et du coup, l'effet pernicieux dont tu parlais, c'est vrai que maintenant j'appuie sur OK, je m'en fous, allez, vas-y, avance, et voilà. Et d'une certaine manière, je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que, ou plutôt, je suis d'accord avec une partie de ce que vous dites. L'intention est louable, c'est-à-dire que l'intention de donner aux utilisateurs, aux gens qui naviguent sur des sites, le fait de savoir pourquoi vont être utilisées leurs données, c'est ce que vous dites aussi, ça c'est louable.
Exactement.
Mais dans l'implémentation, c'est difficile à faire par la force des choses, je crois, sans que ça ne devienne fastidieux. Et cet aspect fastidieux fait que ça devient contre-productif. Et qu'au final... Oui, pardon, vas-y, Franck.
Excuse-moi, c'est pas fastidieux dans le sens, je dirais plus que c'est, après, c'est plus de la concurrence au global. Parce que si on reprend l'exemple d'un Google et d'un Facebook, ils ont une puissance tellement importante que eux leur mettent une restriction comme ça, ils rajoutent dans leurs conditions générales et ils vont avoir des validations d'énormément de monde en très peu de temps. Mmh. Alors que le nouvel acteur qui vient d'arriver, potentiellement, moi je crée une start-up et je veux me lancer là-dedans, qu'est-ce que t'as comme données? Bah rien, parce que personne m'a donné son consentement. Donc déjà, ça crée une espèce de concurrence déloyale via une restriction légale. Exactement, donc c'est ça que les BAFA ont une assise dessus. Et si tous les autres acteurs voulaient pouvoir les contrer et ne pas se retrouver en concurrence déloyale, ils ont dû mettre en place des systèmes, oui, et comme tu le dis, rabâcher, quitte à ce que ça en devienne ridicule. Donc oui, là, c'est louable, parce que c'est très intéressant de le faire et l'intention est bonne. Par contre, dans la pratique, c'est un petit peu hypocrite parce qu'aujourd'hui, tout le monde, c'est de la surenchère, on le met un petit peu tout le temps, jusqu'à ce que l'internaute soit lassé.
C'est déjà le cas. Moi, je pense que la plupart des gens, si quelqu'un comme moi est lassé et clique juste la plupart du temps sur OK, c'est bon, je n'ai aucun doute sur le fait que 90% des internautes européens le font aussi. Et oui, on peut dire, et c'est vrai, c'est au moins on a le choix. Au moins, on peut désormais contrôler les choses si on le souhaite. J'aurais presque tendance à dire il faudrait qu'il y ait un petit module d'options qui soit qui est la même icône partout sur tous les sites auxquels on peut aller facilement, mais qui soit pas aussi intrusif de manière à ce qu'on puisse le faire une fois et enfin non mais même pas c'est insoluble comme
problème
parce que
cette technologie en fait est basée sur les cookies dont on
c'est
parle
c'est ça qui sont rafraîchis tous les 30 jours donc
exactement qui périment tous les 30 jours donc potentiellement si tu consultes pas un site d'ici à 30 jours ou que tu décide pas de vider les cookies de ton navigateur, ce que moi je fais assez régulièrement pour être sûr qu'ils soient rapides et qu'ils prennent pas trop de mémoire sur mon
ordinateur. Non, parce que t'es un marketeur et que tu comprends le système, donc tu sais qu'il faut vider les
exactement.
Cookies, on a bien compris.
On n'est pas dans la cible.
Non, mais c'est vrai que cet RGPD voulait contrôler l'utilisation de la donnée qu'on en fait, sauf qu'elle n'a aucun impact, comme disait Franck, sur Google et Facebook principalement, parce qu'ils étaient potentiellement...
Puisqu'ils ont les données autrement, de toute façon.
Ils ont la donnée autrement, et ils étaient déjà en conformité parce qu'ils étaient obligés, ils sont sous le feu des projecteurs, en fait. Donc, ils étaient obligés d'être plus que réglo avec la donnée qu'ils avaient. On voit les Columbia Gate, enfin, tous les différents problèmes de leak et de diffusion de données sur lesquels ils sont... qui a eu assez récemment. Donc, du coup, la mise en place de la RGPD ne sert pas grand chose dans la majorité des cas car ces deux acteurs étaient déjà, on va dire, en conformité avant et ils représentent 60% des investissements publicitaires sur Internet. Quasiment tout aujourd'hui, n'importe quel marketeur, moi, tout le monde, on achète entre 50 à 60% de notre inventaire publicitaire chez Facebook et chez Google.
Ouais, c'est assez impressionnant, effectivement. Et eux, ils ont déjà cette base de données. Et donc, ils sont, à la limite, renforcés par les barrières qui sont mises aux entrées de tout le monde, ouais, c'est-à-dire des nouveaux entrants, quoi.
Exactement.
Mais bon, peut-être qu'à terme, peut-être qu'il faudra aménager, je pense, l'implémentation de cette RGPD, à mon sens, surtout pour éviter cet effet pervers que on clique. Mais comment le faire, je sais pas. Il faudra voir comment ça se. Je reste convaincu que l'intention est bonne et j'ai l'impression que c'est ce que vous dites aussi. Mais l'implémentation, c'est pas qu'elle aurait pu être mieux faite, c'est qu'on sait pas vraiment comment mieux la faire. Et c'est de là que vient le problème, quoi.
Elle arrivera dans l'ère post-cookie, ce qu'on appelle ce qui se passera une fois qu'on décidera de passer à une autre technologie que le cookie. Et ça, bon, tout autre sujet qui demande énormément d'évolution et de volonté d'évolution de la part du secteur, de l'industrie, du marketing, du ciblage de données. Mais on ne pourra faire des évolutions et être plus transparent et être plus clair qu'une fois qu'on passera sur un système qui va au-delà du cookie.
Justement, c'est une belle conclusion peut-être. On a commencé avec les cookies. Est-ce qu'on peut finir en posant cette question? Est-ce qu'on commence à entrouvrir une porte sur un monde post-cookie ou est-ce qu'on n'y est pas du tout et le cookie est encore la seule possibilité pour faire vivre cet écosystème hyper important qui est finalement l'écosystème de l'Internet, qui est celui de la publicité sur lequel repose l'ensemble du contenu que vous consommez tous les jours sur Internet ou on va dire l'immense majorité. Est-ce qu'il y a autre chose que les cookies à l'horizon ou non, c'est les cookies et rien d'autre?
Ça dépend pour. Alors, je sais qu'en affiliation, donc c'est vraiment très spécifique, parce que pour rappel, l'affiliation, pour reprendre l'exemple de Romain, c'est le buteur. C'est-à-dire que c'est le site, c'est le dernier site sur lequel je vais aller et je vais voir une offre, je vais cliquer dessus, je vais aller sur le site e-marchand et je fais mon achat. Donc pour
on
ce
peut
genre,
le faire avec des liens spécifiques qui...
On peut le faire, on travaille plutôt sur les liens, exactement. Là-dessus, en interne, on met en place des solutions basées sur le clic, dans le sens où on va passer un paramètre spécifique lorsque l'internaute clique sur une bannière ou sur un produit, etc. Donc là, il n'y a aucune information personnelle qui est passée, donc pas besoin de cookies, on met juste un ID. Et après, il revient à l'annonceur, donc au site marchand, de venir récupérer cet ID, donc ce paramètre, de le garder en mémoire, et quand il y a une vente de fait, de repasser cet identifiant dans la vente. Et à partir de là, on peut justement faire un croisement entre tiens, telle vente contient tel ID, et après de dire bah tiens tel ID il vient de tel site web. Donc c'est
mais tel
site.
ID à moins de le garder dans la session spécifique, il faut le mettre sur Exactement. Le cookie si on veut
c'est
le
limité.
Retrouver.
Ouais, ouais. Bah, c'est là la limite, c'est qu'on est beaucoup plus limité, ouais. Mais ça permet de répondre à certains besoins qui est bien loin de tout ce que peut englober un cookie aujourd'hui.
Il y a il y a certaines sociétés, hein, qui essaient de se faire passer de se passer du cookie. Google est la première en développant autour des individus comme toi et moi un univers un écosystème qui est always on, toujours connecté. De cette manière, tu ne perds plus la trace de la personne. Comment ils le font? Ils le font en ayant ton ID Google sur ce que tu es sur Android, que tu sois toujours connecté avec ton ID Google. De cette manière-là, ils sont capables de te suivre au-delà de 30 jours. Ils essayent de mettre chez toi des jolies
Google Home,
des enceintes connectées qui sont capables d'écouter et de toujours avoir une petite oreille sur les conversations qui se passent pour suivre tes intentions d'achat. Voilà, le but est de créer un écosystème.
Excuse-moi, je précise. Ne faisons pas de peur. C'est pas qu'ils écoutent tout ce qu'on dit. C'est que quand vous leur parlez spécifiquement, là, ils peuvent enregistrer vos demandes et vos. Oui, oui. C'est pas qu'ils espionnent.
Ah oui, non. Surtout pas de. Non. Il y a clairement pas. Ils ont aucun intérêt. Il y a zéro intérêt à le faire. Et même si il y a beaucoup trop de data à stocker, c'est pas une sacrée empreinte carbone. Mais non, ils ont aucun intérêt à tout écouter. Mais le but est de créer un écosystème complet, toujours connecté autour des individus. Et ça, comme tu dis, la porte s'est ouverte à la RGPD, en gros, d'avoir une nécessité de passer au-delà du cookie. Mais je pense qu'étant donné la traction et l'inertie qu'a le marché, avec les milliards de dollars et d'euros qui sont investis chaque année, et les enjeux qui sont là, il va falloir du temps avant qu'on puisse passer à un autre système. Je pense qu'on n'a pas encore vu la fin du cookie sur Internet.
Et puis surtout, c'est peut-être ironique de dire ça, mais le cookie est un petit peu ouvert, en ce sens que tout le monde peut le partager, alors que les systèmes dont on parle, ou en tout cas, bon, les liens d'affiliation, ça peut être utilisé entre les différents sites, mais quand on parle d'un écosystème qui nous suit partout, que ce soit celui de Facebook, de Google ou d'Amazon, ou même d'Apple, même si Apple, le cas est différent, puisqu'ils ils nous font payer le fait que il n'est pas d'autres sources de revenus publicitaires par ailleurs. Je sais plus ce que je voulais dire, mais dans ces conditions, on est chez un seul acteur. On n'est plus sur un système ouvert. Et donc, ça renforce encore plus les positions, quoi.
Exactement, mais tu es chez un acteur, comme tu le dis, qui a déjà une position dominante, qui représente 40% des investissements publicitaires à lui tout seul.
Bon, bah écoutez, je pense que on va arrêter les discussions à peu près à ce niveau-là. Je vous donne quand même quelques minutes pour conclure. On a vu que le cookie est le centre du monde aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura d'autres choses à l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez nous dire aux auditeurs après ces 7 heures et 15 minutes de discussion pour conclure l'émission, peut-être Franck en premier.
conclure, c'est difficile de conclure après toutes
ces. Moi, c'est pas obligé, on peut.
Je rappellerai juste que le cookie, c'est un outil marketing comme bien d'autres. C'est pas une fin en soi. Que derrière, c'est ce qu'on en fait et bien sûr comment est-ce qu'on va l'utiliser qui va être le plus important. Je reviens à ce qu'on disait un petit peu au début et quand je me mets un petit peu à la place de mes amis qui sont pas du tout dans l'univers du du web et qui me disent ah c'est toi qui fais ça, c'est toi qui fais ça. Et on a tous eu l'expérience de d'avoir 50 fois la même publicité ou la même vidéo qui arrive, la même vidéo publicitaire. Ça encore une fois, c'est une bonne gestion de la publicité permet normalement de ne pas avoir 50 fois la même publicité. Mmh. Et tout ça, c'est des outils qu'il faut utiliser pour pas qu'il y ait cet aspect néfaste à la publicité, dans le sens où forcément, au bout d'un moment, on en a marre d'être surexposé toujours à la même chose. Et le cookie a quelque chose d'assez bienfaisant en soi, parce que ça nous permet d'avoir des offres qui sont normalement en phase avec qui je suis, ce qui pourrait m'intéresser. Oui. Et pas justement avoir du tout et du rien qui m'est exposé sur les sites où je vais.
Donc c'est vrai juste...
Vas-y, je t'en prie.
Juste avant de te donner la parole, Romain, moi, il m'est arrivé, j'ai fait une recherche une fois sur une toupie, je ne sais plus, il y avait un projet Kickstarter, une toupie qui ne s'arrête jamais, un truc marrant qui me paraissait un petit gadget. Mais ces toupies, j'en ai bouffé pendant des semaines après. Chaque site où j'allais était couvert de pubs pour des toupies, c'était effrayant. Mais oui, c'est vrai que les cookies... vous avez même des moyens très simples de vous en débarrasser. Il y a des extensions pour Chrome ou pour d'autres navigateurs qui vont vous permettre de d'effacer les cookies ou même de les bloquer sur tous les sites et sur tous d'effacer les scripts, etc. Je suis pas certain qu'on ait vraiment forcément envie de ça, parce que ça veut pas dire qu'on aura, et ils le disent souvent les sites, ça veut pas dire qu'on aura moins de pubs. C'est juste qu'on aura moins de pubs ciblées. Alors peut-être qu'on veut pas être ciblé, mais c'est un petit peu comme, c'est un petit peu comme les DRM en fait. Les DRM, c'est vrai que sur le principe, je suis pas forcément pour, mais on a atteint un niveau d'équilibre où c'est suffisamment peu contraignant et ça offre des avantages quand même intéressants, comme le fait de pouvoir, sur les jeux vidéo, les DRM, ça va, c'est pas trop gênant. Sur la vidéo, Netflix, il y a des DRM, ils sont bardés de DRM, les services comme Netflix, mais bon, c'est pas trop gênant, on y a accès partout, machin.
Donc on a un équilibre. Internet est quand même essentiellement gratuit. C'est la publicité qui permet de faire vivre la plupart des sites aujourd'hui sur lesquels on navigue. Donc le mieux qu'on puisse faire, si demain devait y avoir un RGPD bis, ce serait peut-être plus sur la régularisation de la publicité, plus que sur justement les données personnelles, à savoir est-ce qu'on autorise l'annonceur à matraquer un individu tout le temps.
Oui, mais du coup il faudrait. Il faudrait savoir qui a été ciblé directement. Ça, c'est aussi problématique si tu veux limiter le nombre de...
Je n'apporte pas la solution. Je pose la question simplement.
Bon, écoute, moi, je pense que j'ai une autre solution quand même qui va régler absolument tous ces problèmes, qui est que, en fait, la pub, c'est bien joli, mais en fait, c'est hyper toxique et hyper néfaste. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est payer pour son contenu, monsieur. Exactement. Venez sur patreon.com/rdvtech pour soutenir le Rendez-vous Tech. Non, c'est vrai que je dis ça en plaisantant, mais si, bien sûr, il faut que tous les auditeurs aillent tout de suite sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission, parce que ça vous apporte de la qualité, du plaisir, de bons moments. Il faut aussi reconnaître que même si demain tout le monde se met à payer pour les 2, 3, 4 sources de contenu qu'ils apprécient, ça ne veut pas dire qu'ils vont vouloir payer pour tous les contenus qu'ils consomment. Il y a énormément de contenus aujourd'hui qu'on est parfaitement prêt à consommer contre de la publicité. Donc les deux doivent coexister. Moi, je pense que le modèle hybride, ou même pas hybride, le modèle où les deux existent est important. Et donc, ça veut dire que la publicité... Enfin, soyons honnêtes, la publicité existe depuis la nuit des temps et elle va pas disparaître demain. Donc, c'est un modèle d'affaires qui est peut-être un peu excessif aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a des réglementations comme le RGPD plus ou moins bien implémentées qui visent à encadrer ces utilisations, et peut-être qu'il en faut d'autres. Mais je pense que c'est tout aussi vrai que la publicité est importante. Et je dis pas que ça parce que vous êtes dans l'émission et que sans publicité, vous n'auriez pas de travail. C'est tout un pan de la création de contenu au sens large qui pourrait pas exister, soyons clairs, sans publicité, quoi.
Tout à fait.
Oui, vas-y, Romain, je te laisse les derniers mots et puis on va se quitter.
Non, non, mais je suis globalement d'accord avec vous. Il ne faut pas oublier que la publicité derrière, ce sont des annonceurs surtout qui veulent faire de la publicité. Et aujourd'hui, on est plus que jamais dans l'apport d'une expérience client dès l'affichage publicitaire. Du coup, ce capping, cette maîtrise des investissements, cette maîtrise du ciblage est aujourd'hui plus que jamais pour tous les marketeurs du marché la priorité principale. D'apporter la meilleure utilisation et la meilleure expérience utilisateur possible. Et comme disait Franck, très juste titre, ceux qui vous connaissent le mieux ne sont pas ceux qui vous matraquent le plus, justement. Quand c'est fait en bonne intelligence, avec les bons outils, les bons leviers de déclenchement d'achat et les bons partenaires, c'est même agréable. Une bonne utilisation publicitaire peut être agréable.
Bah écoutez, vous aurez au moins appris quelque chose dans le rendez-vous tech. En fait, la pub, ça vous fait plaisir. C'est ça qui est bien. C'est même sans ironie, on peut le dire. Une bonne pub, c'est vrai, c'est une pub qui marche, c'est une pub sympa. S'il y avait que ça, on le saurait. Mais il faut que ça soit bien contrôlé pour pas être aussi irritant que ça. Ensuite, la question des profilages et des données privées est autre. Et j'espère que, grâce à cet épisode, vous aurez un petit peu compris de quoi il en retourne, comment ça fonctionne, et que au moins, vous saurez ce qui se passe quand vous avez ces écrans géants de RGPD qui vous demandent de où vous voulez que vos données soient utilisées. Ça sera au moins ça de gagné avec cet épisode. Merci à tous les deux. Avant de se quitter, Franck et Romain, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur Internet? Je ne sais pas si tu as un compte Twitter, Franck. J'en ai retrouvé un, mais je ne sais pas si tu l'utilises. Donc, je ne sais pas si tu veux que je le mette sur les...
Je l'utilise pas forcément à des fins pro. Je mets un petit peu de tout dessus, des news et du pro aussi. Mais je l'utilise j'utilise un petit peu. C'est Franck _ Oyo. Et c'est là-dessus que je poste.
Très bien, bah je mettrai ce lien dans les notes de l'émission. Romain, pour ta part ?
C'est pareil, vous pouvez me retrouver sur Twitter, j'y poste des trucs perso, des news, des actus. C'est @RomainRobin, c'est mon nom, mon prénom.
Super. Voilà. Les liens seront dans les notes de l'émission. Et moi, je vous recontacterai pour savoir comment faire de la bonne pub pour faire connaître le rendez-vous tech, en fait. C'est ça mon problème avec l'émission. C'est que. Alors, je vais m'asseoir dans votre bureau, on va dire. Alors, quel est votre but, monsieur Béja? Voilà. Alors, moi, je voudrais faire
quel du grand budget
connaître. je vous ai dit tout à l'heure, non? C'est 14 euros? Non? C'est pas ça? Ok. D'accord. On en discutera. Très bien. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram, et vous pouvez bien sûr venir commenter l'émission et l'épisode sur frenchspin.fr. Et si vous voulez un petit peu d'informations sur le jeu vidéo, on en a parlé un petit peu dans l'émission, vous pouvez aussi suivre le rendez-vous jeu qui parle de jeux vidéo. On a d'ailleurs, si tout va bien, très bientôt une émission sur Red Dead Redemption 2, qui est le gros jeu de l'année. Donc normalement ça sera disponible, je ne sais pas exactement quand, peut-être un peu avant, un peu après la sortie de cet épisode, mais ça sera sur le flux du rendez-vous jeu, ça par contre c'est certain. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode avec des trucs Apple entre autres. Ouais, super. Allez, ciao.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.